Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je tiens à m'excuser, je suis atteint, comme la plupart d'entre vous, de quelques maux de saison qui font qu'on ne sait pas vraiment si on a chaud ou si on a froid. Donc j'ai tenté le pull et la chemise, on verra si ça tient jusqu'au bout. Voilà. Donc désolé si j'ai quelques petits trous de concentration en cours de route, mais ça devrait aller. On est depuis plusieurs mois maintenant dans l'Église sur une étude biblique suivie de l'évangile selon Marc, et qui est un évangile qui est très dynamique, où les choses avancent d'une manière assez phénoménale. L'évangile le plus court parmi les évangiles qui nous ont été adressés, et c'est sans doute l'apôtre Pierre qui en est à la source. Et ce matin, on va continuer dans cet évangile, et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 12, les versets 13 à 44. Et pendant que vous cherchez ce texte et que vous le gardez devant vous, parce que c'est important qu'on puisse chacun et chacune avoir ce texte devant nous, Marc chapitre 12, versets 13 à 44, je vais simplement contextualiser ce texte avant qu'on puisse le lire. Et c'est notre frère Marcel Connet qui viendra lire le texte pour nous. Ça m'économisera un petit peu, et puis ça apportera une voix un peu différente. Donc, pour contextualiser un peu ce texte avant qu'on le lise et qu'on puisse avoir à l'esprit ces quelques guides, on va dire, au moment où Marcel viendra lire ce texte. On est dans la dernière semaine de vie sur terre de notre Seigneur. Nous sommes le mercredi. Et ce qui se passe, et les textes que l'on va lire maintenant, sont des textes qui se déroulent tous le mercredi de la dernière semaine de vie de notre Seigneur. Le lundi, toute la foule est là à l'entrée de Jérusalem. C'est une entrée triomphante. Tout le monde crie « Hosanna, sauve Seigneur, sauve-nous ». Tout le monde voit en Jésus-Christ le Sauveur. Et puis le vendredi, cinq jours plus tard, il crie encore plus fort « Crucifie-le ». Les mêmes, en cinq jours. Et on voit à travers ce basculement, cinq pauvres petits jours qui se passent. On voit combien ce peuple est infondé. Le vent souffle dans un sens, il y va. Le vent souffle dans l'autre sens, il y va. Et on se dit, mais ce n'est pas possible qu'il n'ait aucune conviction, aucun point fixe, aucun support, aucun... Voilà, il manque de fondation, ce peuple. Et ces autorités religieuses sont grandement coupables de ne pas lui avoir donné ces fondations. Et au moment où on va lire ce texte, et au moment où Jésus et ses disciples vivent les textes qu'on va lire, ils viennent de vivre dans le chapitre 11 et le chapitre 12 de Marc deux temps très très forts. Dans le chapitre 11, d'abord, Jésus a chassé les marchands du temple. Nous, on le lit d'une manière assez commune, mais c'était un événement qui était d'une violence absolue et qui a été vécu comme tel, puisque Jésus venait faire interférence dans le petit business qui s'était développé dans le temple, où les autorités religieuses profitaient largement de transactions qui étaient faites à cet endroit-là, de taux de change absolument abominables qui avaient lieu dans le temple. Et c'était vraiment un scandale qui était en train de se passer. Et Jésus n'y est pas allé de main morte. Dans un acte réfléchi, il est allé, il a chassé les marchands du temple. Et ça a été dur. Et les autorités religieuses se sont retrouvées ébranlées suite à ça. Et puis, un deuxième événement fort qui va marquer la fin. Qui va marquer la fin de Jésus avec les autorités religieuses. Et il y a une vraie rupture qui est marquée à partir de là. Et Daniel a abordé ce point-là la semaine dernière sur la parabole des vignerons. C'est maintenant, ça a trop duré. Vous avez fait des choses qui sont trop graves. Et ils vont aller faire encore une chose qui est encore plus grave, mais qui était prophétisée dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire mettre à mort leur sauveur, celui qui était venu pour eux, celui qui est venu pour nous. Et cette vigne, dans cette parabole de vignerons, que je vous avais donnée en gérance à vous, autorités religieuses, maintenant c'est terminé, je la donne à d'autres. Ça, c'est Marc, chapitre 12, et je vous renvoie à la prédication que Daniel a faite la semaine dernière et qui est disponible en écoute sur le site internet de l'Église. Et Marc, chapitre 12, verset 12, juste avant le texte qu'on va lire maintenant, et Marcel, si tu veux bien approcher, dit la chose suivante, « Il, donc les autorités religieuses, cherchaient à se saisir de Jésus, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux. Ils n'étaient pas dans l'ignorance, ils savaient. Ils savaient que cette parabole était pour eux que Jésus avait dit cette parole. Ils savaient que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. » c'est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, l'enseignement que Jésus a donné, à la limite, pour ses chefs religieux du peuple, s'arrête au verset 12 du chapitre 12. C'est terminé, c'est terminé. Et tout ce qui va se passer à partir de maintenant nous est donné à but pédagogique pour nous. Ce n'est plus à destination des chefs religieux, et pourtant on va voir, ils sont toujours là, eux, ils sont en train de poser des questions, mais Jésus en a terminé avec eux. Et j'ai intitulé cette prédication « Lumière ». Ça y est, maintenant on ouvre le rideau et on dévoile au grand jour la pauvreté, le scandale de pauvreté religieuse qu'il y avait en Israël, la pauvreté spirituelle des autorités religieuses qui est venue imprégner le peuple. Et trois questions vont se poser, une affirmation que Jésus va donner, et puis un scandale, encore une fois, qui a lieu dans ce peuple, avec l'épisode de la veuve. Marcel, si tu veux bien lire. Marc 12, versets 13 à 44.
Verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et de... Merci. Je reprends. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Il vint lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Envoyez-moi un denier afin que je voie. » Ils apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondèrent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question, « Maître, voici ce que Moïse a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Il en fut de même du troisième. Et chacun des sept ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eu pour femme. » Jésus leur dit, « Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari. Mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts et à la résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. » Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus grand que les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser des questions. Jésus prit la parole et se mit à enseigner dans le temple. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est le fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue. Ils désirent les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » Assis vis-à-vis du trône, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une veuve, une pauvre veuve, et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen.
Merci beaucoup, Marcel. C'est un long texte, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de le lire et de l'intégrer. Lumière sur la pauvreté spirituelle. Trois dernières questions au verset 34. À la fin du verset 34, l'évangéliste nous dit que personne n'osa plus lui poser de questions. Et quand on lit effectivement le reste de l'évangile de Marc, il n'y a plus de questions qui lui sont posées. Terminé les interactions avec les religieux. Terminé, c'est fini. Il a tiré un trait. Il a répondu à toutes les questions auxquelles il devait répondre. Il a donné tout ce qu'il avait à donner. Il leur a proposé tout ce qu'il avait à leur proposer. Et ils ont refusé. Trois dernières questions, qui sont en réalité des questions qui, quelque part, nous sont léguées, qui nous sont données, puisqu'il en a terminé avec ses autorités religieuses. Quelque part, ces questions sont pour nous. Elles sont pour ses disciples, qui sont autour de lui et qui sont témoins de ces scènes, puisqu'il ne s'adresse plus directement aux autorités religieuses et qu'il a scellé leur sort. Ces questions sont pour nous. La première question, elle concerne l'impôt à César. Donc là, je suis désolé, Steph. La réponse est claire, il va falloir que tu payes tes impôts. Donc c'est net et puis non attaquable, c'est dans la bouche de notre Seigneur Jésus lui-même. Tu ne peux pas discuter ça et on vérifiera à la fin de l'année. Stéphane nous présentera sa feuille d'année. Non, revenons au texte. Les pharisiens et l'impôt à César. Je vous ai mis ici une petite image de ce qu'est un denier. Un denier, c'est une pièce sur laquelle, d'un côté, il y a la figure de l'empereur, et de l'autre côté, il y a une maxime. D'où la question de Jésus au verset 16. Et je vous invite vraiment à garder vos Bibles ouvertes, parce qu'on va naviguer dans le texte et regarder certains versets à chaque fois. La question qu'il pose, c'est recto verso, côté pile, côté face de cette pièce, de qui sont cette effigie, l'image, et de qui est cette inscription? Et la maxime qui était donnée derrière la pièce, derrière un denier, était une maxime qui disait que l'empereur était empereur de droit divin et qu'il était lui-même un fils de Dieu en réalité. Donc Auguste César à l'époque, pour le coup, était un descendant divin en réalité. Et cette maxime le rappelait. Et vous aviez l'effigie de la personne qui était en face avant. Donc voilà une image d'un denier de César Auguste à cette époque-là. Et Jésus va profiter de ces trois dernières questions pour mettre en lumière un leadership perdant. Il forme ses disciples. Il est là, ils sont à côté d'eux, ils regardent. Il sait que dans quelques jours, dans deux jours, il sera sur le bois de la croix. Et il va les laisser. Et il est en train de leur apprendre quel type de leadership ils vont devoir exercer. Et il commence par leur montrer le contre-exemple en leur montrant ce que les pharisiens, les sadducéens, les scribes ont fait et la ruine dans laquelle ça a mené le peuple d'Israël. Quelques points, quelques lumières que Jésus apporte sur ce leadership perdant. Le premier point, c'est un leadership perdant, c'est un leadership qui n'a aucune sincérité. Aucune sincérité. Le mot qui est utilisé au verset 13, lorsque les pharisiens et les hérodiens s'unissent afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Vous le voyez dans le verset 13, afin de le prendre au piège de ses propres paroles. C'est un verbe qui est utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament, celui-ci. Une seule fois. On le retrouve que ici. Et ce verbe, en réalité, est utilisé pour une chasse. C'est une traque. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait le traduire afin de le chasser ou de le traquer, de faire en sorte de poser un piège et qu'il se referme sur lui, mais au sens agressif du terme. C'est-à-dire que Jésus est considéré comme un animal dont il faut avoir la tête. Et c'est comme ça que ce leadership est exercé. Une traque. Hypocrite. Et Jésus n'est pas dupe au verset 15. Il connaît leur cœur, il connaît leur hypocrisie. Et il leur répond, pourquoi vous me mettez à l'épreuve ? Vous êtes hors course de toute façon. Pourquoi vous me mettez à l'épreuve ? Deuxième lumière qu'on peut voir dans ce texte sur ce leadership perdant, c'est un leadership qui est prêt à faire des alliances compromettantes pour abattre son ennemi. Il y avait presque rien d'aussi improbable qu'une alliance entre des pharisiens et des hérodiens. Les pharisiens qui voulaient se garder tellement purs en dehors du système et les hérodiens qui, eux, pactisaient avec l'occupant romain. C'est difficile de trouver plus improbable comme alliance. Mais là, eux qui se détestaient, qui se haïssaient, ils se retrouvent unis sous la même bannière, la même égide. On y va parce qu'on a un animal à abattre. C'était ça leur attitude. Ils étaient les autorités religieuses. Ils étaient les autorités religieuses. Ils étaient les leaders du peuple. Prêt à des alliances compromettantes pour abattre son ennemi. Le plan est simple. Si à cette question de « faut-il payer l'impôt ou ne faut-il pas payer l'impôt ?», Jésus répond « oui, il faut payer l'impôt », alors il sera accusé d'être un collaborateur avec le peuple romain et ce sont les Juifs qui le mettront à mort. S'il répond « non, il ne faut pas payer l'impôt », alors les Romains vont dire « insurrection, rebelle », et ce sont les Romains qui vont le mettre à mort. Tu réponds oui, tu meurs. Tu réponds non, tu meurs. C'était ça, le piège. Le plan est machiavélique et il semble parfait. Sauf qu'en face d'eux, ils ont le maître. Et le maître leur dit, donne-moi un denier. Ça appartient à qui ça ? Et il met tout le monde d'accord, les Romains et les Juifs, en disant « tu rends à César ce qui appartient à César ». Et je me plais à imaginer qu'il les regarde droit dans les yeux en leur disant « et tu rends à Dieu ce que tu dois rendre à Dieu ». Imaginez la scène de Jésus avec le denier romain dans la main, en leur montrant l'effigie, en leur disant « vous devez rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Les pharisiens qui étaient présents n'étaient pas dupes. Vous savez, dans la Genèse, il est dit que Dieu a créé l'homme à son image. et il leur montre l'image d'Hérode sur cette pièce d'Auguste. Et il leur donne, il la montre en disant, ça, cette tête-là, ça c'est Rome. Mais en toi, il devrait y avoir Dieu. L'image qui est placée en toi, Dieu. Tu dois te donner à Dieu. Tu dois te rendre à Dieu. Mais eux sont complètement égocentriques. Ils se rendent à leur propre nombril et ils sont perdus. Un leadership perdant, c'est un leadership qui s'avère flatteur pour rien. Quand on regarde au verset 14, nous savons que tu es vrai, etc. etc. Ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent. Flatteur. Un leadership menteur aussi. Menteur au point où, si vous avez vos Bibles devant vous, tournez-les quelques pages après, dans Luc chapitre 23, le verset 2. Au moment où Jésus se retrouve devant Pilate et devant Hérode, il est conduit par les autorités religieuses en question devant eux. Et au verset 2 du chapitre 23 de Luc, ils se mettent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé celui-ci qui a incité notre nation à la révolte, comme s'il avait répondu « Non, non, ne payez pas l'impôt. » Empêché de payer l'impôt à César. Menteur. Menteur. Jésus a dit « Rendez à César ce qui appartient à César. » C'est un mensonge. Ils étaient complètement aveugles, au point de dire n'importe quoi de manière à essayer de garder leur petit business. La réponse de Jésus, respectez l'autorité et donnez-vous à Dieu qui vous a fait à son image. Nous nous devons à Dieu. Nous nous devons à Dieu. Nous sommes le denier sur lequel nous avons l'image de Dieu. Nous devons refléter l'image de Dieu. Nous sommes à Dieu. Rendons-nous à Dieu. Deuxième vague de questions, les Sadducéens. Les Sadducéens et la question de la résurrection. Ils inventent une histoire complètement improbable. Franchement, c'est grotesque. C'est grotesque. Les Sadducéens, juste pour la culture biblique, étaient membres du Sanhédrin, donc l'ensemble de 71 personnes qui dirigeaient, du point de vue religieux, le peuple d'Israël. Et la différence avec les pharisiens, c'est qu'eux ne croyaient en l'authenticité que des 5 premiers livres de la Bible, que dans le Pentateuque. Et ils vont utiliser des prescriptions bibliques en disant, effectivement, c'est une prescription biblique, ce qu'ils disent ici, même s'ils prennent une histoire qui est complètement abusive et tirée par les cheveux, ils vont utiliser des prescriptions bibliques. Ça peut être aussi une caractéristique d'un leadership perdant. On peut utiliser les choses, mais en tournant les vraies questions en absurde. La vraie question, ce n'était pas cette femme, comment est-ce qu'elle sera mariée au ciel. Et d'ailleurs, Jésus répond, on ne va pas s'attarder dessus pour gagner un peu de temps, mais la vraie question, c'est la résurrection existe-t-elle? C'est la question de souche. Et Jésus lui-même qui avait ressuscité Lazare, etc., etc., il savait très bien que la résurrection existait. Eux-mêmes étaient témoins de tout ça. Ils savaient très bien ce qu'il en était. Et dans la pédagogie ultime de notre Seigneur, il dit, mais vous êtes errant. Vous voyez au verset 24, vous êtes dans l'erreur, vous êtes errant. Alors ça, c'est très marrant aussi, parce que quand on regarde étymologiquement ce mot, c'est le mot qui, en français, a donné le mot planète. En gros, mais t'es dans l'espace. C'est ça que Jésus dit. Alors, dit, mais en fait, vous êtes comme une planète, placée dans le vide, à la dérive. Aucun appui, aucun fondement. On ne peut pas. C'est comme si vous étiez dans l'espace, votre pied ne touche rien, vous n'avez aucun appui, c'est complètement pas solide ce que vous êtes en train de bâtir, au point que Jésus va se servir de quoi? Il ne va pas se servir des psaumes, il ne va pas se servir des prophètes, il va se servir du Pentateuque. Il va se servir des 5 premiers livres de la Bible, ceux que les Sadducéens, ils en avaient 5 à connaître, ils n'en avaient pas 66, ils en avaient 5 à connaître. Et Jésus va se servir des 5 premiers livres de la Bible. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse C'est une attaque frontale. Ce que Dieu lui a dit près du buisson, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Votre erreur est grande. Tu es très, très, très dans l'espace. C'est ça que Jésus dit aux Sadducéens. Aucun appui, aucun fondement. Ils ne connaissent même pas les 5 livres. Ils n'utilisent pas les 5 livres qu'ils devaient maîtriser. Troisième et dernière question. Le scribe est le plus grand des commandements. Cette question-là, elle est plus complexe. Quand on lit le texte, on a presque de la compassion. On se dit, ouais, il y a quelque chose chez cet homme. Il pose la question et la réponse de Jésus, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Elle est encourageante. Disant, mais t'es pas loin. On peut ne pas être loin du royaume de Dieu. Mais quand on n'est pas loin, on n'est pas dedans. Quand on lit le passage équivalent dans l'évangile selon Matthieu, on voit que l'attitude de ce scribe, c'est « il vient de manière à mettre à l'épreuve le maître ». Il ne vient pas avec le bon comportement. On se présente devant Jésus-Christ avec une attitude d'humilité. « Seigneur, tu es maître, donc c'est toi qui m'enseignes, c'est toi qui dois m'apprendre. » On vient à genoux devant le maître. On ne vient pas avec arrogance. Et cet homme-là, il lui manquait pas grand-chose. C'est étonnant de voir, et je réfléchissais à ces textes de la parole en préparant cette prédication, qui nous disent, plusieurs textes qui nous disent que certains seront à la porte et frapperont et le maître dira « Mais moi, je ne vous ai jamais connu. » On ne peut pas être plus proche du royaume que lorsqu'on est à sa porte. Mais quand on est à la porte et du côté extérieur, on n'est pas dedans. Il avait beau être prêt, proche, il n'était pas à l'intérieur. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de mon Père. Beaucoup diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. » Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Cet homme est proche, et c'est encourageant, il vaut mieux être proche que loin. Mais proche, c'est perdu. Proche, c'est perdu. Et parfois, on utilise dans notre vocabulaire des expressions comme « il n'est pas loin du Seigneur » ou alors « il lui manque que le Seigneur ». Mais l'évangile est radical. L'évangile est radical. Ne nous y trompons pas, les amis. L'évangile est radical. À la porte, c'est pas dedans. Proche, c'est pas dedans. Dedans, c'est dedans. Mais dehors, c'est dehors. Bien entendu, ils vont être proches du royaume que loin, mais la finalité, c'est la même, c'est la perdition éternelle. Il faut rentrer dans le royaume. Le royaume, c'est avant tout un roi. C'est un roi qui règne. Un roi qui règne à l'intérieur. Et quand on regarde la réponse, et simplement Jésus qui rappelle ces textes du Deutéronome, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, c'est l'intérieur, de toute ton âme, c'est l'intérieur, de toute ta pensée, c'est l'intérieur, de toute ta force, et lorsqu'on dit la force, c'est toute l'énergie, toute la motivation, toute la stimulation, tout pousser ça, de manière à ce qu'on puisse lui rendre une adoration qui lui est juste, mais c'est intérieur, c'est dedans que ça se passe. » Et Jésus leur rappelle cela à travers ce texte encore une fois. Trois réponses. Vous vous devez à Dieu. Vous pensez connaître les Écritures, mais vous ne les appliquez pas correctement. Le Christ, pleinement homme et pleinement Dieu, est en face des autorités religieuses. Il est là physiquement en face d'eux et ils ne le reconnaissent pas. Et dans la suite du texte, il va s'annoncer comme le fils de David. Le fils de David, ça voulait dire beaucoup de choses à l'époque. Ça voulait dire qu'il était un héritier, et ça c'est pleinement homme, descendant de lignée royale de David. Le roi est là, le descendant de David est devant eux. Et pleinement Dieu aussi, à travers ce texte, et en particulier, on ne va pas le regarder, mais verset 26, quand David dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite », etc., David lui-même l'appelle Seigneur. Donc de lignée humaine royale et de lignée divine royale. Jésus-Christ est roi. Et c'est terminé, les questions. C'est fini. Jésus vient de donner une leçon en trois temps, trois mouvements, trois questions. Et il vient de donner une leçon, un apprentissage à ses disciples qui sont à côté de lui et qui peuvent le voir. Et il termine avec l'offrande de la veuve. Je reconnais que dans la préparation de cette prédication, c'est le texte sur lequel je me suis le plus longuement attardé. Et je me suis régalé avec ce texte, qui est un texte pathétique. Mais en lisant différentes choses à ce sujet-là, qui m'a ouvert aussi sur des perspectives que je n'avais pas vues jusqu'à présent à travers ce texte. Et c'est toujours plaisant et tellement riche de voir la beauté de la parole de Dieu après avoir lu des dizaines et des dizaines de fois ces textes-là, de les redécouvrir encore et de découvrir des facettes différentes. Les scribes, au verset 40, sont étonnamment présentés comme des dévoreurs de maisons de veuves. Vous voyez, Marc 12, verset 40, ils dévorent les maisons des veuves. Et c'est étonnant de voir juste derrière, tout juste après, le récit de l'observation de cette veuve, justement, qui vient et qui est d'une pauvreté absolue, et Jésus le dit et le voit. Et on est amené à se poser une question qui n'est pas une question banale, c'est comment est-ce qu'on peut interpréter ce texte du récit de la veuve qui vient, qui apporte ses deux pièces dans le tronc. Est-ce que cette veuve est un modèle? Ou est-ce qu'elle a, en réalité, une situation qui est du domaine du scandale? C'est une honte qu'une telle personne comme ça existe en Israël. C'est une honte qu'une personne comme ça existe au sein du peuple d'Israël. Quand on lit l'Ancien Testament, il y a entre 25 et 30 textes de l'Ancien Testament qui explicitement les déclarent comme étant des personnes prioritaires parce qu'elles ont perdu leur mari, parce qu'elles sont donc sans protection sociale, que leur mari était leur seule source de revenus, et que c'est le peuple, et en particulier sous l'égide et la conduite des autorités religieuses, qui devait subvenir à leurs besoins. Trouver en Israël une veuve qui est pauvre, c'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un scandale. Et Jésus regarde cette veuve. Il appelle ses disciples. Verset 43. Il appelle ses disciples. Venez voir, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez les conséquences d'un leadership mal exercé. Regardez les conséquences d'années et encore d'années de personnes, de dirigeants d'un peuple, de dirigeants religieux qui viennent et qui, en réalité, ont amené ce peuple à la ruine et ont renversé les valeurs. Ils s'en sont mis plein les poches. Les autorités religieuses s'en sont mis plein les poches. Et c'est scandaleux de voir ce que Jésus dit d'eux. Ils désirent, au verset 38, se promener en robe longue. Ça coûtait une fortune, ça. Les situations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Et trois versets plus loin, une veuve ratissée qui est là et qui met ce qu'elle n'aurait jamais dû mettre dans le tronc. en lisant un commentaire de John MacArthur qui est très très dur par rapport à cette situation-là, j'ai vu une autre perspective. Évidemment, oui, c'est vrai, et on le voit comme ça, et on le présente souvent comme ça, ce texte. C'est un vrai geste de consécration. Cette femme, elle a donné de son nécessaire rien ne nous le dit dans le texte, mais elle l'a probablement fait avec cœur, et Jésus, à travers les mots qu'il prononce et dans les textes parallèles dans l'autre évangile dans lequel ce texte est raconté, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, on sent vraiment une empathie de Jésus. On sent qu'il est là, il a une compassion énorme pour cette femme. Et en même temps, le contexte général dans lequel cet épisode est placé, qui est le même dans l'évangile de Luc, le même, qui est d'un scandaleux par rapport aux autorités religieuses et par rapport à la ruine, ne peut pas nous faire passer à côté d'une deuxième interprétation possible, qui est complètement compatible, qui est de dire, mais est-ce que ce geste était vraiment normal ? Est-ce qu'elle avait à le faire, ce qu'elle avait à faire ? Et la réponse, c'est non. Non. Elle n'avait pas à être placée dans une situation de telle dépendance, cette femme. C'est un échec pour Israël. C'est un échec cuisant pour les autorités, pour les leaders de ce peuple, d'être confrontés à cette femme dans le dénuement le plus complet et qui, en plus de ça, pour eux, parce que cet argent, ils vont le récupérer, pour eux, elle vient et sans savoir que c'est pour eux, peut-être que dans son cœur, elle le fait pour Dieu, peut-être, on ne le sait pas, le texte ne nous le dit pas. On ne va pas extrapoler. Mais c'est un scandale qu'eux soient là, qu'ils voient cette situation-là et qu'ils disent « donne encore ». Au verset 13, ils sont partis à la traque d'un animal. Qui est l'animal ? Qui est l'animal ? Un modèle ? Jusqu'où est-ce que c'est un modèle ? Quelques leçons pratiques que ce texte nous apporte, et je conclue avec ces quelques points. La Bible nous dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Ils étaient 71 dans le Sanhédrin, dans le groupement des autorités religieuses avec les scribes, les pharisiens et les sadducéens, les trois qui se sont exprimés ici. Ils étaient 71. Ils ont réussi à 71, et puis leurs prédécesseurs aussi, évidemment, ils ne sont pas les seuls dans la charrette, mais ils en ont bien profité. Ils ont réussi à détourner des milliers, des milliers, des milliers de personnes de la vérité, les rendant errants au point que le lundi, ils crient « Hosanna » et que le vendredi, ils crient « Crucifie ». Aucun fondement, ils n'ont plus aucun discernement. Ils les ont paumés. Ils les ont paumés. Ils ne savent plus comment se comporter. Plus d'appui. Tout un peuple aveuglé par des autorités aveuglées. On ne va pas lire les textes qui sont afférents à cela, mais on voit en particulier que Jésus dit que c'est un peuple d'aveugles mené par des aveugles. Tout le monde est perdu. Et ils vont n'importe quoi, ils font n'importe quoi et ils vont n'importe où. Ils n'ont plus de direction, la boussole est cassée. La boussole est cassée. Et cette veuve, à la fin, est un dommage de pathétique de leur comportement. Dérive après dérive. Et si le traitement des plus faibles parmi nous, aujourd'hui, était quelque part révélateur de ce que l'on fait de l'autorité. Et si, quelque part, comme dans 1 Corinthiens au chapitre 12, ce texte de l'apôtre Paul, qui nous dit, du verset 22 au verset 27, lorsqu'il prend l'image du corps de Christ, un corps bien ordonné, les membres du corps, 1 Corinthiens 12, verset 22, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Pas juste les anciens, pas juste les diacres, pas juste les responsables d'activité, chacun. Nous sommes membres de ce corps. Et ce texte de 1 Corinthiens et d'autres textes dans la parole nous amènent à tourner les yeux vers les membres les plus faibles d'entre nous. Et Jésus rencontre cette veuve, la plus faible parmi les plus faibles, à un moment tellement déterminant dans son parcours, au moment où il en a terminé avec les religieux et où il montre à ses disciples, regardez les dégâts, regardez les dégâts. Et cette femme, dans un geste d'une abnégation complète, en voulant bien faire, elle témoigne par sa situation d'une pauvreté absolue, de l'échec complet de la nation. Jacques 1, verset 27, nous dit que la religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Est-ce qu'on visite ? Est-ce que lorsque les personnes sont faibles, fragiles, on a un petit mot, on peut les encourager ? Parce que c'est le révélateur, en fait, d'une autorité qui est bien exercée, mais l'autorité qui nous incombe à chacun et chacune d'entre nous. Considérons la situation de nos frères et de nos sœurs. Ne leur demandons pas ce qu'ils ne sont pas capables de donner. Ne calquons pas sur chacun et chacune d'entre nous une sorte de modèle labellisé évangélique ISO 9002 en disant « c'est comme ça que tu dois te comporter ». Il y a des saisons dans nos vies. Il y a des moments où les personnes vont moins bien. Il y a des moments d'épreuve. Il y a des moments de doute. Il y a des moments où il faut prendre en considération la fragilité des frères et des sœurs. Est-ce qu'on y va avec nos gros sabots dans les conseils que l'on peut donner en disant tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois donner, donne encore ton temps, ton énergie, ton argent, ton ci, ton ça. Ou alors est-ce qu'on prend en compte l'individualité, la singularité de chaque frère et de chaque sœur avec ce qu'il vit, parce qu'on a des saisons dans nos vies. Gare à l'instrumentalisation. L'altruisme est un révélateur dans l'exercice de nos ministères. Tous les dons ont été donnés pour l'édification commune. C'est l'apôtre Paul qui le dit encore une fois aux Corinthiens. Les autorités religieuses étaient tellement loin de ça à cette époque-là qu'elles nous enseignent et elles nous mettent une gifle aussi, quelque part. Et cet enseignement de Jésus me fait un bien fou, me fait beaucoup, beaucoup de bien, me parle. Parce que les choses ne doivent pas tourner autour de notre propre nombril, parce que c'est ce qui est arrivé aux autorités religieuses à cette époque-là. Mais un don, il est altruiste ou il n'est pas. Soit il est au service de l'autre, soit il n'a pas de raison d'être. Et dernière chose, osons demander à Jésus-Christ d'éclairer nos cœurs. Jésus-Christ fait l'effet, vous savez, de ces produits chimiques qui viennent, vous faites tomber une goutte dans un liquide transparent, et puis d'un coup, c'est une goutte transparente qui tombe dans un liquide transparent, et puis d'un coup, il y a plein de couleurs qui viennent, et qui étaient en réalité dans le liquide à la base. Et Jésus, lorsqu'il vient, il met tout en lumière. Tout en lumière. Si vous êtes déjà au Seigneur, demandez à Christ de mettre en lumière peut-être les zones de nos vies qui ne l'honorent pas, de manière à ce qu'à aucun moment nous tombions dans ce dans quoi les pharisiens sont tombés, les sadducéens sont tombés, les scribes, pensant connaître au plus haut point la loi, sont tombés. Et si vous n'êtes pas encore au Seigneur, demandez à Jésus-Christ de faire la lumière dans vos cœurs. Invitez-le. Demandez-lui de venir dans vos cœurs. Et il œuvre. Il est actif. Il est là, il nous aime, il prend soin de nous et il met en lumière les zones d'ombre de nos vies. Et c'est une invitation. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes ont laissé passer le coche. Aujourd'hui, c'est l'heure. Aujourd'hui, il est encore temps, nous dit la parole. Jusqu'à quand ? Amen.
Merci encore Jean-Marc pour cet enseignement qui nous montre encore la perspicacité de l'enseignement de Christ et tout ce qu'il voulait nous révéler. Je vous propose simplement qu'on puisse avoir, en laissant ce slide affiché, qu'on puisse avoir un temps de silence et de réflexion par rapport à tout ce qu'on a reçu, un temps de réponse aussi dans nos cœurs. Je proposerai, Patrice, si tu veux conclure après ce temps de silence dans la prière pour chacun d'entre nous, pour l'Assemblée.